Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous sommes à l'université protestante au Congo. Nous parlons de l'intelligence artificielle et du développement des compétences en informatique. Merci à toute la grande équipe de production de Radio Okapi, l'équipe multimédia et en FM sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Voilà, nous continuons à parler de l'intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités, les défis et comment développer les compétences en informatique? Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, suivez s'il vous plaît. Merci de suivre sa question. Allez-y.
Ok, moi c'est Dieu merci Vala, assistant dans la faculté des sciences informatiques et donc chercheur aussi dans le centre de recherche en intelligence artificielle et ingénierie informatique. Alors, j'ai une préoccupation. Monsieur Le Cordon a parlé des investissements des pays dans l'intelligence artificielle, la France, l'Union européenne et tous les restes. Je voudrais savoir, est-ce que les organisations gouvernementales ou étatiques pensent aussi à inviter les chercheurs dans, disons, ça serait comme un investissement, en fait, dans la recherche en intelligence artificielle pour apporter des solutions dans ces sens-là. Parce que ces pays-là ont appelé des chercheurs à venir trouver des solutions. Est-ce que dans la fonction publique, on invite que des étrangers à venir apporter des solutions? Ou bien on voudrait aussi que les locaux aient l'expérience, au fait, par rapport à nos propres défis, par rapport à nos propres problèmes, pour apporter des solutions. Aujourd'hui, nous avons les centres de recherche en intelligence artificielle. On voudrait bien travailler sur des problèmes congolais, au fait. C'était ça ma préoccupation. Ça serait plus que 100 milliards pour un début. Nous inviter à palper, au fait, nos vrais problèmes avec les outils que nous avons en main présentement. Merci beaucoup.
Merci pour les préoccupations. Le suivant. Ouais. Mais il y a un constat. Il n'y a pas assez de dames qui posent des questions. Depuis qu'on a commencé cette émission, il n'y a qu'une seule dame qui est passée pour poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une dame qui est de l'autre côté. Merci de l'encourager. Merci de l'applaudir très très fort.
Allez-y. Oui, merci. Bonjour à tous. Ouais, moi c'est Daniel Tusson KMB, ressortissant de l'ISPT sur de l'enscience. J'ai deux petites questions. La première question, je m'adresse au docteur Jean-Luc. C'est Jean-Luc?
Oui, monsieur Jean-Luc Mugongwa.
Oui, oui. Actuellement, la RDC dépend largement de technologies étrangères. Donc, quasi totalement, on dépend de puissances étrangères. Alors, quels sont les défis et les solutions à mettre en place pour développer nos propres technologies localement? Même sur le plan sécurité, vous remarquez que on se plaint, on est tellement attaqué sur le plan numérique. Il y a des informations au poisson rwandais. Oui. Alors, localement, qu'est-ce que nous avons prévu pour lutter contre ces attaques-là cybernétiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je m'adresse au professeur Lutangila
David.
Ouais. Professeur, vous en tant que professeur, quelles sont les méthodes que vous avez mises en place pour contourner des algorithmes? Bien sûr qu'on dit que la roue a été déjà fabriquée, mais quels sont nos propres algorithmes, des codes que nous pouvons mettre en place? Bien sûr, nous dépendons, mais que nous pouvons aussi développer avec nos propres applications, en utilisant l'intelligence artificielle. Quels sont les algorithmes que vous avez mis en place? Et aussi, pour ne pas vous contredire, vous avez nié les robots. Mais en informatique, on dit qu'un robot, c'est un objet programmé pour exécuter une tâche sans l'intervention de l'homme. Alors, ce que la dame ici a fabriqué, c'est pas un robot. Mais nous voulons alors plus des explications sur ça. Merci beaucoup.
D'accord, merci. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Désiré Kandé. Je suis licencié en informatique depuis l'université de Lubumbashi, la faculté de sciences, département maths et informatique. En dehors de cela, je suis aussi certifié en CONTIA dans Network Plus depuis l'année passée. Oui, Network Plus, oui, je suis certifié. Oui, c'est le DG Zéphirin. D'ailleurs, c'est une occasion aussi d'inviter à tous mes collègues de ces certains. En tout cas, aujourd'hui, l'informatique évolue à une vitesse vraiment, si tu es distrait, c'est très compliqué. Et surtout, ce sont les certifications qui comptent. Aujourd'hui, nos diplômes, ça ne suffit pas. Il faut aussi se certifier. Moi, j'ai pris ce courage-là, je me suis certifié en Network Plus. Et d'ailleurs, je pars encore vers le sommet là-bas. Alors, je pose la question au Cordo, lui qui représente le gouvernement ici. Pourquoi est-ce que notre pays ne veut pas émerger? Alors que quand je vous ai entendu, vous avez beaucoup encensé l'intelligence artificielle. Mais quand nous partons en pratique, c'est très compliqué. Parce que dans tous les domaines, ça sointe vraiment. Tous les domaines du pays. Tous les domaines. Ça vraiment, vous n'allez pas me contredire. Alors, et quand nous, en tant qu'informaticiens, nous cherchons à donner des solutions et en tout cas, la porte vraiment n'est pas vraiment ouverte pour nous. Donc ça se ferme. Ouais. C'est comme pourquoi? Je prends un exemple. Nous avons développé une application qui essaie un peu de gérer un peu le service d'administration, tout ça. Quand vous partez on voir les responsables, vous exposez les problèmes.
À la fonction publique.
Hein? Non, non. Dans une université, là. Quand vous allez, on vous dit... Non, bon, les chefs d'institution vous disent non, on aime l'archaïcité des choses. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec ça, ça va nous encourager, nous les jeunes, de beaucoup plus travailler, alors que nous avons les soucis d'informatiser notre pays? Aujourd'hui, nous sommes en retard. Si on se rappelle l'événement qui s'est passé récemment, je crois dans le bureau du ministre de la Justice, il y a eu, non, les gens qui sont, ils sont venus, tout ça, bon, on a suivi l'histoire là. Mais il y a Omedi qui avait des caméras et après les gens là, donc c'était difficile de le voir. Mais je me dis, avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment...
Les caméras de surveillance, c'est aussi l'IA, ça fonctionne.
Vous dites, hein?
Les caméras de surveillance...
Oui, ça fonctionne, ils peuvent nous dire, ces gens-là, donc c'est difficile, on ne les a pas retrouvés. Mais c'est comment cela fait-il que... Vous comprenez, c'est difficile. Est-ce qu'il y a des informaticiens? Est-ce que c'est comment? Et quand on veut donner des solutions, non, ce sont des
bon, peut-être qu'il y avait pas pour... courant, voilà, il y a non, beaucoup de...
Malgré ça, non. Pourquoi est-ce qu'en tout cas, essayer un peu de, hein, de voir un peu comment est-ce que vous pouvez nous encourager, nous les jeunes. Nous avons des solutions, mais le pays vraiment, c'est, dans le pays nous bloque.
D'accord, merci mais beaucoup pour la préoccupation.
Bonjour. Bonjour, je suis Nathan Xavier, étudiant en ingénierie logicielle à l'UPC et membre de la structure informatique TenCode. J'aimerais demander à notre illustre doyen et au représentant de l'ADN, l'Agence du numérique, pourquoi est-ce que la RDC peine à faire sa transition vers le digital, vers le numérique, et quelles sont les solutions que vous proposez en tant qu'illustres acteurs de l'avancée scientifique de ce pays? Et surtout, pourquoi est-ce que les anciens mettent les bâtons dans les roues des gens qui viennent avec des innovations?
Les anciens mettent les bâtons dans les roues?
Oui, notamment, pour appuyer mon argumentaire, on avait voulu faire un projet de digitaliser les casiers judiciaires. Mais lorsqu'on est allé là-bas, vous verrez, les anciens qui s'occupent du département informatique penseront qu'on est venu comme leur voler leur travail, alors qu'on propose une solution qui va même les aider.
Et finalement, votre proposition a été rejetée ou adoptée?
Bon, c'est encore en cours, mais on ramène ça à beaucoup de longues démarches administratives qui vont faire taire le projet finalement.
Bien, merci pour la préoccupation. Madame, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole. Je réponds au nom de Minze Nilumbele Enis, étudiante en université protestante au Congo en L1 phase. Ma question est sur l'effet d'avancer avec la technologie. Aujourd'hui, on parle de la reproduction in vitro. On peut avoir les enfants sans pourtant qu'il y ait contact corporel. Et aussi, il y a le femme, des prototypes femmes que les Chinois ont inventé. Cela ne pose pas problème sur l'utilité de la femme, parce que le robot a la capacité de faire tout, sauf rien que la femme fait. Il manque juste la respiration. Donc, le robot ne respire pas, mais il peut produire, il peut supporter l'enfant durant 9 mois. Et ce n'est pas un problème pour nous, étant qu'être humain. Parce que l'homme peut se dire que non, la femme, c'est trop de dépenses et tout. Je me paye un robot qui peut
un
répondre
instant,
à
un instant, s'il vous plaît.
Ça fait ça.
S'il vous plaît, camarade. Il y a beaucoup de bruit dans la salle. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Merci de vous calmer. Madame va terminer sa question.
Oui, c'est un peu ça. Ce n'est pas un danger aux jours à venir de ce sens.
D'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre dame qui veut s'exprimer. On va lui donner la parole. Tati, tu peux lui remettre le micro?
D'abord, et puis on va aller au deuxième.
Voilà, non, elle est déjà là. On va prendre sa question rapidement. Merci à tous les internautes. Je sais que sur Facebook, il y a pas mal de réactions. Je vais peut-être lire quelques réactions tout à l'heure.
Bonjour à tous et merci pour la parole. Bon, je réponds au nom des Ketia Lianza, élève des, plutôt étudiante à l'université protestante au Congo, en aile déphasée. Ma question est de savoir, vu de nombreuses situations auxquelles nous faisons, la RDC fait face.
Calmez-vous, s'il vous plaît, chers
notamment
camarades.
Notamment avec les inondations qu'il y a eu vers Tchangou, avec les fortes pluies que la ville de Kinshasa a connues. Est-ce que, comment l'IA pourrait-il contribuer pour pouvoir nous aider à prédire ou à éviter toutes ces catastrophes naturelles, en fait?
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Merci de l'encourager en applaudissant pour elle. Voilà, Monsieur Zéphirin, on commence. Tati, micro. Zéphirin, vous avez la parole.
Alors, je reviens sur le monsieur qui m'a posé une question ici, à savoir les problèmes des compétences, les pertes du travail et consorts. Lorsqu'on finit l'université, je le reprends encore un peu dans des termes un peu faciles, quand on termine l'université, on pense qu'on est déjà les produits finis. Or que c'est là où tout commence. L'université forme les généralistes. Donc vous avez une idée d'une manière générale. Maintenant, pour que vous soyez exploité dans l'entreprise, il vous faut une spécialisation. Je prends un exemple. Dans l'université, vous avez le développement des applications, les réseaux, les bases de données. Alors, une fois que tu termines, tu n'as pas de compétences dans l'une des matières là-bas, non. Tu es maintenant obligé de suivre une certification liée ou soit en développement, ou soit en réseau, base de données, avec une accréditation. Même quand il y a les offres, vous voyez, on écrit sur l'offre, on a besoin d'un IT support, il doit connaître, et on cite ces éléments-là, à la fin on vous dit, il peut avoir une certification en Cisco, en Microsoft, ou en Contia et consorts. Donc, ce sont les éléments dont vous avez besoin. Un outil, je retourne rapidement sur ce que le doyen venait de dire, que quand on parle des outils d'intelligence artificielle, ce sont des logiciels. Et derrière ces logiciels-là, on a documenté, on a mis beaucoup d'informations. Si l'information n'était pas mise à l'intérieur de cet outil, l'IA ne va rien vous fournir. Vous pouvez taper une information, il va vous dire, désolé, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Donc, ça vous montre que les gens qui ont mis ces informations, ils n'ont pas mis toutes les informations là-dedans. Pour les gens qui font le développement et qui font les travaux de fin d'études, on ne peut pas trouver un travail de fin d'études de qualité sur IA. C'est impossible. Mais on peut trouver un sujet que tu peux commencer à débattre avec l'intelligence artificielle. Comme ça, tu as tous les éléments pour structurer, développer ta structure, et ça remplace même les co-directeurs. Là, l'éco-directeur peut perdre toutefois son travail, parce que le travail de l'éco-directeur, c'était de structurer le travail de fin d'études d'un étudiant. Mais tu peux le faire toi-même si tu as vraiment des compétences. Nous vivons maintenant dans un monde digital, monde numérique. Le monde numérique est dynamique, n'est pas statique. Mon ami m'avait posé la question, je peux engager quelqu'un aujourd'hui. L'année prochaine, je cherche à le remplacer par IA. Non. Quand on engage quelqu'un dans une entreprise, fais un effort de t'améliorer du jour au jour en étant au sein de l'entreprise. Le problème avec vous, les jeunes, c'est quoi? On t'engage, on te dit tu vas commencer à recevoir les gens. Tu vas trouver quelqu'un pendant 20 ans. Bonjour, monsieur. Entre. La place est là. Donc, il ne s'améliorera jamais. Et des gens pareils, on les remplace. Il faut être utile dans les entreprises. C'est faire des mises à jour chaque jour. Participer dans des séminaires, dans des centres de formation, se déplacer, et c'est ça la vie. Dans des réunions de jeunes dans des églises, mettez-vous là-bas. On n'entre pas dans des réunions de jeunes pour commencer à chasser les esprits. Non. On se partage l'intelligence. Il ne faut pas rire, hein. Je suis dans les centres de formation depuis 2009. J'ai eu des cas terribles. J'enseigne des gens qui travaillent, j'enseigne aussi les demandeurs d'emploi. Parfois, quand les gens viennent, je me dis, Seigneur, je peux me quitter le Congo parce que les niveaux ici, je peux piquer une crise. Mais, nous avons discuté avec le coordonnateur, on a fait un briefing. Je pense que notre projet d'installer les académies dans des universités, dans des provinces, peut être soutenu par
Monsieur le gouvernement. Monsieur Zéphirin, vous parlez de certification, voilà tout ça.
Une certification, c'est comme un diplôme. Néanmoins, il atteste que la personne a des compétences dans la matière X. Donc, il maîtrise, par exemple, l'environnement de développement des applications. Les étudiants qui développent les applications, par exemple, vous allez vous demander pourquoi on n'achète pas vos applications. Quand vous allez à une entreprise, il faut montrer beaucoup de preuves, y compris les CV. Tu ne peux pas aller sur l'Internet, sur le YouTube, Udemy, tu conçois un petit truc là, tu dis que tu as développé une application. Non. Il faut qu'on vous dise des vérités. Parce que pour vendre même cette application, il faut assurer le support après. Ce n'est pas un support d'une année, deux ans. Or, vous connaissez un Congolais. Le Congolais, s'il gagne seulement un marché de 20 000, il va chercher une voiture d'occasion. Il peut même quitter Dieu. C'est fini, je suis déjà compris. Ce sont des cas réels. Ce sont des cas vrais. Et quand vous allez commencer à l'appeler, on a un problème ici, viens voir ton problème. Non, il faut payer l'argent. Ça, c'est un. Vous qui développez les applications, il faut que les universités, le gouvernement mettent en place les plateformes qu'il faut. On ne peut pas développer une application sur un laptop Cordio et vous prétendez que cette application viendra fonctionner sur un serveur qui a 20 corps et consorts. Il faut réfléchir à tous ces problèmes. Il faut y réfléchir, il faut y travailler. Donc, c'est ça au moins. Il y a des gens qui peuvent parler beaucoup.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Mugongwa, coordonnateur adjoint de l'Agence pour le développement du numérique.
Oui, merci pour la parole. Donc, j'ai compris la préoccupation à travers plusieurs questions, notamment quelle est la position et la vision de l'État par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet que le chef de l'État lui-même a pris conscience. Et pour l'État congolais, c'est une opportunité. C'est une opportunité dont la RDC doit tirer parti. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'actuellement, le ministre des Postes, Télécoms et Numériques, son Excellence Augustin Kibasa, le président de l'autorité de régulation de postes et télécommunications, le président Christian Katende, ainsi que l'Agence pour le développement du numérique pour compte de l'État, sommes en train de justement réfléchir à la mise en place d'un plan stratégique pour permettre à la RDC de tirer pleinement opportunité de cette technologie. D'une part en tant qu'État et d'autre part aussi pour les individus que vous êtes. Et nous y travaillons. Concernant la problématique que nous entendons souvent par rapport à la difficulté de travailler et de collaborer avec l'État, notamment sur les questions du numérique. D'abord, j'aimerais vraiment que vous compreniez quelque chose. c'est que l'informatique ne vient pas résoudre des problèmes humains. C'est très important. Ne pensons pas qu'avec l'informatique ou même l'intelligence artificielle, nous allons résoudre des problèmes humains. C'est une erreur. L'informatique vient là pour supporter l'individu ou l'organisation dans ce qu'elle veut faire. Si l'individu ou l'organisation veut mal travailler, elle travaillera mal avec l'informatique. Si elle veut bien travailler, elle travaillera mieux avec l'informatique. Donc c'est d'abord des problèmes humains que nous avons en RDC qui doivent être résolus et il y a des institutions qui sont en train d'y travailler. Concernant le retard dans ces domaines technologiques qu'a la RDC, malheureusement, nous héritons d'un pays. L'informatique a commencé à être développée massivement au niveau des organisations publiques comme privées dans les années 90-2000. Or, pour ceux qui connaissent l'histoire du pays, dans les années 90 jusqu'à 2005, nous étions dans des conflits armés permanents. Et ça a empêché la RDC de pouvoir prendre cette vague-là de la modernisation de l'État. Et donc depuis lors, nous courons après le temps, et c'est-à-dire que nous avons tellement de priorités. Les ressources de l'État sont ce qu'elles sont et les priorités sont énormes. Raison pour laquelle on a autant de mal à rattraper la technologie parce qu'en réalité, elle viendra au support du social. Et vous verrez qu'une grande partie des ressources de l'État sont consacrées au social. Et la technologie est un peu en souffrance. Néanmoins, le train est en marche. La technologie est de plus en plus acceptée tant dans le secteur privé que dans le secteur public et nous continuons à travailler. Concernant la crainte, d'abord concernant l'accompagnement des entrepreneurs, en tout cas c'est une problématique dont le chef de l'État a pris conscience et l'Agence pour le développement du numérique a notamment dans ses attributions l'accompagnement des entrepreneurs congolais. Parce que dans la vision du chef, il dit le numérique congolais comme levier de développement et de progrès social en RDC. Donc on parle du numérique congolais. Et donc nous sommes ouverts pour vous accueillir et pour vous accompagner dans la maturité des applications que vous êtes en train de développer et dans l'accompagnement également auprès des différentes institutions.
Monsieur Jean-Luc, où en sommes-nous par exemple avec l'informatisation? Est-ce qu'on peut dire que déjà l'administration publique est avancée sur le plan informatique? Ou à la main comme...
Non, l'informatique... Les services publics ont fait d'énormes progrès dans le secteur de leur informatisation. D'ailleurs, le secrétaire général pourra en parler mieux que moi. Aujourd'hui, il y a une application mobile qui existe pour les fonctionnaires où ils peuvent aller regarder quel est leur statut, mettre à jour leurs données. La paye aujourd'hui de tous les fonctionnaires ne s'est fait plus à la main. Elle est complètement digitalisée. Ils sont payés par des virements directement sur leur compte. Et ils sont en train de travailler à maintenant étendre même les moyens de paiement. Donc vous verrez que nous avons des initiatives au niveau des institutions publiques qui sont de plus en plus en train de se digitaliser, mais nous ne pouvons pas rattraper en 5 ans ou 10 ans, 25 ans. Voilà l'enjeu que nous sommes, mais nous sommes quand même en train d'avancer à grands pas. Et l'adoption de technologies comme l'intelligence artificielle, que nous allons réussir tous ensemble avec votre concours, permettra en réalité de faire des leapfrogs, de faire des grands gains de performance et rapidement rattraper notre retard. La course n'est pas encore perdue pour nous. Mais nous avons besoin de compétences, des compétences comme celles qui sont en train d'être créées ici. Et j'entends que vous êtes très, très inquiets par rapport à l'emploi. Mais en réalité, vous, je sens que vous avez un grand cœur, mais vous en êtes les bénéficiaires. Vous êtes ceux qui sont au cœur de cette création de valeur par l'informatique ou par l'intelligence artificielle. Donc ça vous permettra à vous d'avoir des meilleurs emplois. Et l'État fera sa part pour ces éventuels emplois qui pourraient être perdus. Mais je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, il faut savoir que 80% des emplois qu'on a aujourd'hui n'existaient pas au moment où on a créé le moteur à vapeur. Il faut le savoir. Ils ont été créés suite à cette invention, des nouveaux besoins sont nés. Et c'est là l'importance de la formation, des certifications et des évolutions constantes. En réalité, ce sont des nouveaux besoins qui vont venir. Moi, j'ai été diplômé en 2005. J'étais la première promotion d'informatique de gestion. Depuis lors, c'est rentré maintenant dans tous les cursus universitaires. Eh bien, il y aura d'autres emplois qui vont venir. Il y a des structures qui sont là pour accompagner cette transformation. Mais vous, en tant que tel, vous êtes les bénéficiaires. Je peux dire que vous avez choisi le bon parcours. Vous êtes du bon côté. Pas du tout. C'est la fameuse loi de Schumpeter, la destruction créatrice. C'est des emplois aujourd'hui qui sont transformés, toujours pour plus de productivité, et la productivité emmène plus de richesse. La richesse européenne est due à leur haut niveau de productivité qui permet de payer des hauts salaires aux personnes. Et l'informatique en contribue. Donc un Congo informatisé, un Congo qui fonctionne sur les dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, permettra d'avoir des employés mieux payés, parce qu'ils seront plus productifs. C'est la base de l'économie, parce que le salaire qu'on vous paye correspond à une quantité de travail qui a été produit et des biens qui sont mis sur un marché de consommation. Telles sont les règles, et l'informatique permet d'accélérer cela. Et donc vous êtes les grands bénéficiaires. Donc vous, de grâce, foncez, prenez ce train, et les personnes qui pourraient, et je dis bien qui pourraient, être laissées pour compte, seront prises en charge par les structures adaptées. Merci.
Merci. Professeur Koutangila, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais enchaîner avec ce que le coordonnateur de l'ADN vient de dire, en le reliant aussi avec la question de notre ami qui a demandé si j'ai déjà développé un algorithme, par exemple dans le domaine de cybersécurité, etc. Bon, en fait, les algorithmes, nous les développons tous les jours. Hein? Ça, c'est notre domaine. Nous enseignons les algorithmes. Mais... Non, un algorithme, c'est en fait... l'ensemble des étapes que l'ordinateur doit suivre pour résoudre un problème qu'on lui confie. Parce que l'ordinateur n'est pas un homme pour qu'il comprenne qu'est-ce que vous voulez. Il faut lui détailler étape par étape, de manière vraiment détaillée, le plus détaillée possible, pour qu'il arrive à une solution donnée. En résumé, c'est ça.
D'accord.
Alors, maintenant, les algorithmes, on les fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est au patient d'aller chez le médecin. Nous avons, par exemple, ici, dans notre pays, une commission technique de cybersécurité. Mais nous sommes là. Comme vous avez dit, des fois, vous pouvez me forcer, mais personne, la porte vous est fermée. Nous n'avons pas seulement les problèmes de cybersécurité, nous avons les problèmes de la guerre. Aujourd'hui, la guerre à l'est du pays. La guerre aujourd'hui est technologique. C'est-à-dire, si on nous avait associé, nous, hein, les experts en intelligence artificielle, je suis docteur en intelligence artificielle depuis 2005, le tout premier d'ailleurs au pays. Le problème comme celui de la guerre à l'Est, je ne vais pas divulguer toutes les méthodes, sinon parce que les gens nous suivent, hein. Ça peut servir aussi bien à l'ennemi comme à nous-mêmes. Mais il y a des outils. Il y a des outils pour la détection, l'analyse des données et puis la prévision. Vous êtes avisé 10, 20, 30 jours à l'avance sur l'avancée de l'ennemi avec l'intelligence artificielle.
Et je pense que quelqu'un en a même parlé ici.
Oui.
L'affaire de poison rwandais.
Oui, bon, là, c'est, c'est-à-dire avec des caméras qui analysent des images. Il y a quelqu'un qui a parlé du ministre de la Justice, tout ça.
Les caméras de surveillance.
Là, c'est la domotique, hein. C'est vraiment l'IoT, hein. C'est-à-dire des caméras qui analysent des intrusions, tout ça. Avec l'intelligence artificielle. On peut même, avec les réseaux de neurones, je parle souvent de convolutifs parce que c'est le réseau de neurones qui analyse des images, des vidéos, hein, pour
pour comprendre ce qu'il y a. Donc, tout ça, c'est toujours dans le même ordre, même avec le problème de l'insécurité à l'Est. On peut analyser des images, savoir que, voilà, telle image, ce sont des ennemis. On peut même aller jusqu'à comprendre ce qu'ils sont en train de dire avec les TALN, hein, le traitement automatique du langage naturel, et détecter des langages de conflit, même des programmes qui sont tracés. Avec des outils comme les drones, les satellites, etc. Je ne veux pas aller plus loin, parce que nous risquons aussi d'armer les autres. Mais les compétences, nous sommes là. Le robot, l'histoire ici n'est pas un robot, mon frère. C'est tout simplement une machine automate. Un robot, par définition, est un système doté de capteurs. Il doit avoir des capteurs et des effecteurs. Les capteurs et les effecteurs sont reliés par un programme intelligent qui prend des décisions. Or, la machine qui est ici à côté, à ce que je sache, si je me trompe, sous réserve de ceux qui connaissent ça, n'a pas de capteurs. Hein? Bon, mais elle avait prévu, mais pour le moment, il n'y a pas de capteurs. Un capteur a pour rôle, par exemple, de savoir que, avec toujours le réseau de neurones convolutifs, il y en a beaucoup, il y a des réseaux de neurones récurrents, il y en a beaucoup. Mais je parle de convolutifs par rapport aux images. Si, par exemple, il y a un cortège, le cortège présidentiel qui vient dans le sens où c'est mis rouge. On peut pas, donc personne ne peut passer. Le feu est rouge. Mais le président arrive en toute vitesse. Et de l'autre côté, il y a un passant qui a vu que c'est vert. Il vient aussi en toute vitesse. Vous savez oui. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura un accident. Parce que c'était pas un robot. Un robot qui est doté de capteurs et des outils de décision intelligents devait analyser les images et vite changer les positions de lumière selon les priorités, par exemple. Voilà. Par exemple, les contrevenants qui, alors que c'est rouge, il passe quand même, le robot ne fait rien. Il devait prendre ne fût-ce que des images et envoyer à la police. Là, c'est un robot. Mais sinon, ici, nous avons un automate qui fonctionne en fonction des temps. Il tourne, tout ça. Bon, je voulais aussi répondre.
Bon, je dirais...
Merci. Je suis limité par...
Professeur, je dirais peut-être qu'il faut... C'est déjà un robot, mais il faut rajouter les capteurs pour...
Bon, c'est une machine qu'il faut transformer en robot avec le temps.
Bien. Voilà, il y a une autre question de... Il y a une dame qui a parlé, par exemple, de l'insémination artificielle. Aujourd'hui, les Chinois ont créé des femmes. Donc, on peut ne plus avoir besoin d'une femme naturelle. Vous avez... Une femme artificielle qui peut même porter un bébé, qui peut tout faire, tout ça. Alors, madame veut savoir
oui.
Ce n'est pas une menace.
Bon, ce n'est pas une menace. Vous savez, l'intelligence artificielle, comme tous les domaines, on vise aussi l'argent, c'est-à-dire que c'est le commerce. Hein? Ça dépend des besoins de la société. C'est la société qui présente les besoins. On trouve qu'il y a une catégorie de gens qui, honnêtement, ils ont des limitations physiques. Alors qu'ils s'aiment, ils
s'il
peuvent...
S'il vous plaît,
hein, madame.
Calmez-vous s'il vous plaît.
Donc je réponds à votre question. L'intelligence artificielle, comme tous les domaines d'ailleurs, répond aux demandes de la société. Alors la société pose un problème comme celui-là, qui n'est pas forcément un problème à prendre du côté négatif. Il y a des couples où la femme, vu sa taille, ne peut pas aller à l'hôpital concevoir, disons, donner naissance de manière naturelle. Mais elle est dans le couple, ils n'ont pas d'enfants. Et ces problèmes-là se posent dans les couples, dans les ménages. Alors, l'intelligence artificielle résout cela. Il y a des gens qui, pour le problème des femmes robots, j'encourage pas ça, hein, mais c'est un problème quand même dans la société. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment assez de moyens ou n'ont pas de capacité à pouvoir gérer une famille, des limitations qui peuvent être physiques ou psychologiques. Ben, ce sont des êtres humains qui ont des besoins, qui doivent être satisfaits. Ben, l'intelligence artificielle, vu la demande, si la demande est, disons, élevée, hein, disons, des gens asociaux, ah, des gens incapables, par exemple, de maintenir une famille, de vivre en famille, ou bien qui sont dans des conditions de travail telles que ils ne peuvent pas avoir de femmes. Ben, l'intelligence artificielle répond quand même à ces besoins-là. Parce qu'il n'y a pas que...
Et ces femmes artificielles-là, elles font tout, elles préparent même pour...
Non, non, elles ne préparent pas. C'est les femmes artificielles, d'après le souci des inventeurs, c'est pour satisfaire les besoins, disons, sexuels. Il y a des insatisfaits qui ne peuvent pas vivre avec des femmes naturelles, sinon, vous comprenez. Comment on les appelle? C'est-à-dire des gens qui sont hors normes, quoi. Je pense que, bon, l'intelligence artificielle, quand même, pense à eux. C'est un problème éthique, quand même, mais écoutez, ce sont des êtres humains, qui sont là, la société.
Bien, voilà. Alors il y a une question, professeur, par rapport à la guerre de l'Est. Comment, je pense que vous avez déjà parlé de ça, mais on peut toujours insister. Comment est-ce que l'IA, on peut utiliser l'IA pour gérer ce problème d'insécurité?
Bon, je pense que les ennemis ne nous suivent pas parce que
tout bon, ce
que
vous je n'allez pas dire, dévoiler aussi tous les secrets.
Il ne faut pas que je dévoile tout. Mais en fait, comme a dit le cordon, ils sont en train de réfléchir. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour donner ma demande d'emploi. Nous sommes là. Vous pouvez toujours nous utiliser, nous serons utiles. L'intelligence artificielle peut résoudre de façon significative à la situation de la guerre. Par exemple, l'intelligence artificielle, avec des données récoltées par les drones, sur le terrain de la guerre, peut les analyser et vous montrer un peu plus avant l'évolution de l'avancée, par exemple, des troupes rebelles et vous dire qu'ils sont en train d'aller dans telle direction et dans autant de jours, vous serez attaqué avec précision.
D'accord.
Ils peuvent même prédire.
L'intelligence mais il y a aussi des gens qui peuvent trafiquer des photos, des images.
C'est là où vient maintenant le problème de la cyberguerre, les cybermenaces. L'intelligence artificielle intervient pour avec des outils de machine learning pour essayer de détecter, pour détecter des informations qui, dans le domaine des classifications. Détecter des informations qui sont des faux, si vous voulez, des trafiqués. Il y a des outils. On enseigne ça tous les jours avec le machine learning, la prédiction, comment nous appelons ça, supervisé, l'apprentissage supervisé.
Oui.
Donc on peut savoir que voilà tel. C'est comme on détecte les spams dans les courriers électroniques. D'ailleurs, c'est l'exemple classique qui est donné. On peut donc détecter les faux du vrai dans un tas de données. On peut même, avec l'intelligence artificielle, en analysant les contenus de messages, empêcher certains messages de désinformation. On nous dit, par exemple, que voilà, les rebelles sont déjà arrivés au Kassai alors qu'ils ne sont pas là. Et ça sème des troubles ici. Donc oui. Des messages de désinformation, tout ça entre dans la logique de la guerre de l'information. Avec l'intelligence artificielle, on peut vraiment limiter un bon nombre de dégâts. On peut même anticiper sur l'ennemi avec des drones, par exemple. Quand on a détecté les positions ennemies, nous pouvons attaquer. On peut envoyer... Bon, les gens, quand ils voient des drones, ils voient des petites histoires que les caméramans utilisent pour prendre des images. Les drones peuvent être de la taille. J'ai montré ça aux étudiants qui suivent les cours de robotique avec moi, hein, ils ont vu des drones qui ont la taille des grands avions, qui peuvent aller bombarder, saupoudrer donc des bombes, rien que sur des positions ennemies, en évitant les civils. Bon, si l'ennemi attaque, bon, il n'a attaqué qu'un appareil, il n'y a pas de pertes humaines. Des drones qui sont autopilotés. Parce que les drones que nous voyons ici avec les caméramen sont pilotés. Il y a quelqu'un qui est assis là. Mais il y a des drones autonomes,
professeur, intelligents. Il y a une autre question par rapport aux inondations. Est-ce que l'IA peut nous aider à en finir avec les inondations?
Bien sûr. L'IA peut analyser.
Ou pas en finir, mais alerter. Quand
non, alerter. Comme oui. A dit les cordons tout à l'heure, l'informatique ne vient pas résoudre. L'informatique vous aide. L'intelligence artificielle peut analyser les données météorologiques depuis un certain temps et puis vous prédire que à telle allure, vous aurez de fortes précipitations dans la ville et les villes ou les coins les plus touchés par rapport au relief de la ville seront tel. Avec une précision quand même de 90%, et ça permet justement aux décideurs dans le domaine de l'environnement de prendre des décisions à temps au lieu d'être surpris par les événements. Donc voilà un peu l'intelligence artificielle, c'est vraiment un don de Dieu pour l'humanité.
Bien, merci beaucoup. On s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. On va prendre les trois dernières questions. Juste trois dernières questions. Voilà, avant de terminer. Alors, j'ai une question ici, monsieur le secrétaire général voudrait aussi dire un mot. Monsieur Junior Bompongo nous suit depuis la ville de Mbandaka. Il dit comment concilier le développement rapide de l'IA. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire concrètement. Voilà, comment peut-être concevoir comprendre le développement rapide de l'IA. Oui, monsieur le secrétaire général, vous avez la parole.
Bien, merci beaucoup. Et en principe, je tiens à dire aux étudiants, les universitaires qui finissent leurs études, fraîchement leurs études, je leur demanderai d'apprendre à être modestes. Surtout ceux qui réalisent des grands pourcentages. Il a fait 70%, il a fait 80%. Pour lui, il sait qu'il a atteint l'objectif. Non. Vous risquez de vous retrouver avec celui qui a fait juste 50% qui est supérieur à vous. Nous parlons ici de la compétence. Les malheurs chez nous, l'étudiant congolais, ceux qui viennent de terminer fraîchement les études, ils veulent avoir et les savoirs et l'argent au même moment. On ne peut pas avoir l'argent et l'intelligence au même moment. Vous devez être... Nous avons besoin d'un certain coaching. On vous prend, on vous met là-bas, on vous demande d'apprendre. Celui qui est là, il a une certaine expérience. Vous devez profiter de cette expérience-là pour que vous puissiez vous adapter à la vie professionnelle. Puisque, quelquefois, je vous dis que la vie professionnelle, parfois, s'oppose aux connaissances théoriques que nous emmagasinons dans des universités. Donc, apprenons d'abord à être modestes. Vous allez retrouver quelqu'un qui a fini, son assistant ne représente rien, le chef des travaux ne représente rien, les profs lui-même ne représentent rien, tout le monde qui va trouver dans la société ne représente rien. Il n'y a que lui. C'est ça les grands défauts des étudiants qui finissent les études, surtout avec des grands pourcentages.
Bien. Monsieur le secrétaire général, il y avait une question, il y a quelqu'un, un jeune qui a dit, ils ont des idées, ils développent des logiciels, mais lorsqu'ils viennent vers vous, c'est le blocage. On les accepte pas, je ne sais pas si c'est un conflit de génération, on n'accepte pas la jeune génération. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette...
Non, ce n'est pas un conflit de génération. Vous savez, l'entreprise a ses réalités. L'entreprise a ses réalités, vous prenez... Les logiciels que vous avez développés comme TP, vous imposez ça. Il dit non, ça ce n'est pas valable. Et vous aimerez que le monsieur ou la dame à qui vous avez présenté les logiciels puisse valider ces logiciels-là. Non. Le monde professionnel a ses réalités qui sont parfois différentes des réalités universitaires, des réalités académiques. Vous avez des éléments, c'est vrai. Vous avez emmagasiné une série de connaissances. Mais ces connaissances, vous devez chercher à les adapter à l'environnement professionnel. Vous avez un logiciel qui en réalité ne représente rien. J'ai déjà reçu beaucoup d'étudiants. Ils m'amènent un truc qui est fait en Python, en Python. Je dis non, ça c'est pas valable. Je lui fais des remarques, je dis corrigez ici, corrigez là-bas, ainsi de suite, pour que ton logiciel soit utilisable. Non, il veut pas de ça. Et il disparaît. C'est un peu ça. Donc, vous devez chercher un informaticien, je prendrai le cas d'un informaticien, mais vous devez chercher les informaticiens, être en contact avec eux, chercher à apprendre comment les histoires se font sur le plan professionnel. C'est véritablement important. Je crois avoir répondu à cette préoccupation-là. L'autre, c'est quand on a parlé ici de la technologie. Permettez-moi. Tout au début, là, tout le monde s'est moqué de la Chine. Parce que la Chine ne faisait que recopier les autres. Même sur le plan de la recherche, on ne sait pas avoir sa propre philosophie sans avoir copié les autres, sans avoir copié les maîtres, le grand maître. Ce n'est qu'à partir de cela que vous allez trouver une voie propre à vous. La même façon, sur le plan professionnel, copions d'abord ce qui existe. Quand nous aurons maîtrisé ça, nous saurons ce que nous pouvons faire qui nous appartiendra à nous-mêmes. Alors, en ce qui concerne du matériel,
oui.
Au jour d'aujourd'hui, on est dans le cloud. On est dans le cloud computing. Ou, c'est ce que nous appelons parfois l'informatique dans le nuage. Alors, on nous demande s'il s'est posé des problèmes. Non, il y a des normes qui sont prévues. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le cloud que vous devez éviter d'avoir un serveur local. Puisqu'il se pose parfois des problèmes d'Internet. Vous n'avez pas de connexion. Et puisqu'il n'y a pas de connexion, la vie s'arrête. Non, la vie ne peut pas s'arrêter. On va pouvoir utiliser un serveur local en attendant qu'on puisse retrouver la connexion Internet pour faire l'upload, pour pouvoir déverser tous les éléments qu'on a
beaucoup.
De l'autre côté.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Est-ce qu'on peut l'encourager par nos applaudissements? Bien, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Alors, je vais donner la parole aux intervenants. Monsieur Zéphirin, votre dernier mot. Ensuite, monsieur Le Cordon, adjoint. Et puis, on va terminer par le professeur David Koutangila. On n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus de temps pour les questions. Micro, rapidement, Tati. Tati, merci de donner à monsieur Zéphirin le micro. On est déjà à la fin de cette émission.
Et je vous remercie quand même pour cette séance. En dernier mot, le Congo a besoin des ressources humaines qui sont compétentes. Il est aussi temps pour les universités de collaborer avec des éditeurs internationaux comme Contia, qui est mon partenaire, afin que les universités soient équipées des académies, des programmes efficaces ainsi que des matériels qu'il faut. Il faut aussi créer un réseau pour les formateurs afin qu'on ait un programme unique pour toutes les universités et un programme qui est dynamique, qui varie dans le temps. À chaque fois qu'il y a le changement de la technologie, il y a aussi les mises à jour qui doivent être faites sur ces documentations. Pour l'instant, je vous remercie. Je pense qu'on pourra encore se voir un peu prochainement.
Merci beaucoup, Monsieur Zéphirin. On peut l'encourager. Monsieur Zéphirin Tchaba, ingénieur informaticien et directeur général d'Acid Learning and Solutions. Bien, Monsieur Jean-Luc Mugongwa, vous avez la parole.
En tout cas, félicitations à vous pour toutes ces questions pertinentes que vous nous avez posées. Donc, en conclusion, pour les entrepreneurs qui sont là, vraiment l'Agence pour le développement du numérique est à votre disposition pour vous aider, d'une part dans la maturité des applicatifs que vous allez développer et proposer. Comme l'a rappelé le secrétaire général, c'est qu'il y a des normes au niveau des entreprises privées comme publiques. Nous pouvons vous accompagner. Venez, n'hésitez pas. Concernant l'intelligence artificielle, j'aimerais que vous reteniez que vous êtes au cœur de ce dispositif. Prenez votre part du gâteau. Vous êtes du bon côté par rapport à cette technologie. Allez-y, foncez, prenez cette opportunité. Enfin, concernant cette guerre d'agression et le numérique, j'aimerais vraiment vous sensibiliser par rapport aux réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, il y a des technologies qui existent, beaucoup de techniques qui sont faites pour véhiculer des fausses informations, des informations dégradantes pour la RDC. Vous devez vraiment prendre soin vous-même de bien analyser ce qui se passe et de vous mettre dans des positions de défendre votre pays. Ne soyez pas naïfs, discutez, renseignez-vous et ne divulguez pas trop d'informations personnelles sur ces réseaux-là parce que les ennemis nous écoutent. J'aimerais vraiment vous sensibiliser là-dessus. Aujourd'hui, comme on l'a dit, la guerre est une guerre technologique. Il faut qu'on se le dise, les ennemis qui nous attaquent actuellement ont quand même un avantage technologique. Comme je vous l'ai dit, quand un pays investit pendant 10 ans 250 milliards d'euros dans un domaine, ce sera difficile pour nous d'aller le concurrencer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on parle d'accord avec les États-Unis d'Amérique, c'est notamment des échanges technologiques pour nous permettre d'accélérer notre retard et pour être en mesure très rapidement de réaliser tout ce que le doyen vous a expliqué par rapport à cette agression que nous avons. Mais vous soyons patriotes ensemble et faites attention à tout ce que vous lisez et ce que vous diffusez sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Mugongwa, coordonnateur adjoint de l'Agence pour le développement du numérique, qui est une structure de la présidence. Cher doyen, professeur Koutangila, David, vous avez la parole.
Nous remercions la radio CAPI de s'être intéressée à nous, à l'Université protestante au Congo, où nous formons des cadres en intelligence artificielle qui ne doivent pas oublier les conseils qu'on a donnés. Après ici, aller obtenir des certifications comme on a dit tout à l'heure. Et nous demandons aux autorités publiques, nous sommes là pour aider ce pays. Nous sommes là.
Merci beaucoup, professeur. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme. Oh, vos applaudissements sont faibles. Applaudissez très très fort. Au CAPI Service, nous étions en direct de l'Université protestante au Congo. Merci à toute la grande équipe de production, merci à l'équipe multimédia et à l'équipe FM sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci et à la prochaine.